Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de Radio Saint-Ferréol. Je vous retrouve pour une émission à deux voix. De janvier 2018 à août 2020, Sabine Goussoub et Laura Schwartz ont tenu un blog dans le journal Libération intitulé « En attendant la guerre ». Ce sont quelques extraits de ce blog que vous allez entendre. Lui est photographe, chroniqueur de presse, ancien directeur du festival du film du cinéma libanais. Il est écrivain aussi, il a publié trois livres, dont un, Beyrouth sur scène, a eu le Goncourt des lycéens. Elle, Laura, est photographe, chroniqueuse de presse, commissaire d'exposition, journaliste culturel.
Je m'appelle Sabine et en 2015, j'étais à la recherche de photos de famille de jeunes Israéliens pour un projet d'exposition. Un ami m'a mis en contact avec Laura, persuadée qu'elle saurait m'aider.
Je m'appelle Laura Schwartz et à l'époque, il n'y avait pas de rencontre possible entre nous. Un mur et des barbelés nous séparaient. Moi à Tel Aviv, lui à Beyrouth. Nos premiers échanges ont donc eu lieu par mail. Le dialogue s'est établi même s'il est défendu pour un Libanais de communiquer avec un Israélien et inversement. Une collaboration est passible de la loi dans les deux pays. Des liens se sont créés, des points de convergence sont apparus et des différences se sont fait jour.
Depuis, nous nous sommes rencontrés à Paris. Nous avons discuté pendant des heures et monté un projet d'exposition Kess et Mec.
Nous sommes devenus amis.
Je suis arabe, citoyen franco-libanais.
Je suis juive, citoyenne franco-israélienne.
À travers ce blog, écrit à quatre mains, nous faisons le pari de penser ensemble pour voir plus loin.
Régulièrement, chaque semaine, chaque jour.
Chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
Chacun racontera son quotidien.
Tu as écrit « Benjamin Mex est mort chez lui, en Israël. Il est né et a grandi à Paris. Sa mère est algérienne et son père hongrois. Mais ce « chez lui », c'est Israël. L'équation n'est pas simple. Je suis un Libanais de Paris. J'ai grandi avec des Juifs autour de moi. Mon voisin de classe l'était. Mes meilleurs amis aussi, question d'affinité. De l'école primaire jusqu'au lycée, je leur annonçais à la fin du mois de juin mon départ pour Beyrouth. Et eux, Tel Aviv ou Eilat. C'était normal. Je ne me posais même pas de questions. Mais une fois à la maison, à la télévision et au Liban, je sentais que quelque chose clochait. Ce qui était légitime dans la cour de l'école devenait illégitime à l'extérieur. Les années sont passées et j'arrive à comprendre pourquoi Benjamin, toi et les autres, êtes partis en Israël. Des raisons diverses et parfois abstraites. La peur, l'identité, la famille en sont quelques exemples. Le soleil, la mer et la foi en sont d'autres. Pourtant, Laura, je te demande souvent, comment tu fais pour supporter la situation des Palestiniens ? Tout en me disant que si une juive pour combattre le mur de la colonisation, c'est bien toi. Mais tu sais combien la réalité d'un jeune Libanais qui a grandi au Liban, sous des tirs israéliens, est bien loin de la mienne. Comment peut-il interpréter ton aliya ou celle de Benjamin autrement qu'en acte criminel, même si ni toi, ni lui, n'avaient fait l'armée ? J'ai pensé à Abdul Rahman Katanani, dont l'exposition à la galerie Magda Daniz vient de se terminer. J'aurais aimé que tu la voies. Abdul Rahman n'est nulle part chez lui, ni au Liban, ni en Israël, ni ailleurs. Pourtant, en Israël, Abdul Rahman doit se sentir bien plus chez lui que toi. Ton pays, c'est son histoire, son passé et sa terre. Et au Liban, bien plus chez lui que moi. Il est né et a grandi à Beyrouth. Et pourtant, Libanais, il ne peut pas l'être. Acheter un terrain ou devenir procureur général ne lui sont pas non plus autorisés. Né dans le camp de Sabra, c'est un réfugié, un apatride. Droit du retour, disent-ils au pays du cèdre, pour justifier de ne pas le naturaliser, comme si l'un empêchait l'autre. La véritable raison est démographique. La plupart des réfugiés palestiniens au Liban sont des musulmans sunnites. Les chrétiens ont longtemps eu peur que les musulmans deviennent trop nombreux. Aujourd'hui, les musulmans chiites partagent cette crainte. Lors d'une conférence donnée à la Sorbonne sur l'exil juif du monde arabe, l'ambassadrice d'Israël en France a dit « Les Palestiniens, c'est un peuple volontairement exilé. » Tout pays se construit sur des mythes. La France, c'est la résistance. Le Liban, le vivre ensemble islamo-chrétien. Et Israël, la terre vierge. Ce « chez toi », c'est « chez lui ». De chez moi à chez lui, et de chez moi à chez toi, oh, je m'y perds, je reprends. Chez toi, ce n'est pas chez moi, et chez moi, ce n'est pas chez toi. Pourtant, chez lui, c'est chez toi et chez moi. Si mes souvenirs sont bons, j'applique la règle de trois, et chez toi devient chez moi, et inversement, à moins de me tromper.
J'ai toujours été plus littéraire que scientifique. Je serais donc bien en peine de résoudre notre équation. Je sais par contre qui je suis et d'où je viens. Dans l'histoire de ma famille, chez nous n'a toujours été que chez eux, et jamais pour plus d'une génération. Sofia, Varsovie, Jérusalem, Téhéran, Londres, Odessa, Moscou, Bagdad, Bruxelles, Alexandrie, Slonim, Haïfa, Tripoli, Paris. J'ai parfois le tournis en essayant de comptabiliser les kilomètres, les vies entières, les proches perdus et parfois retrouvés qu'il a fallu pour en arriver à moi. Pourtant, à 21 ans, j'ai choisi de m'installer à Tel Aviv et de devenir israélienne. Je suis la première exilée volontaire de la famille, la seule à n'avoir pas quitté le pays qui me tolérait parce que ma vie en dépendait. Si j'avais voulu suivre une certaine logique, mon droit du retour aurait dû s'appliquer à Varsovie ou à Odessa. Pourtant, j'ai grandi en entendant mes grands-parents répéter que là-bas, c'était désormais chez nous. On ne prononçait pas souvent le nom d'Israël. Mon identité s'est construite sur une altérité. Il y a quelques jours, je suis allée voir l'exposition personnelle de l'artiste Tamir Zadok au musée d'art de Tel Aviv. Et j'ai pensé à nos équations insolubles. Dans l'excellent film qui donne le titre à son exposition, Tamir Zadok arabise son nom en Tamer Sadek. Quand un Égyptien lui fait remarquer qu'un patronyme israélien risque de lui attirer des ennuis. à un chauffeur de taxi qui lui demande s'il est vraiment arabe, Zadok, Sadek, répond « Oui, mon père est yéménite, ma mère de Libye. » C'est une histoire vraie. Sadok est un juif oriental ou Mizrahi en hébreu, un juif arabe. Dans nos histoires d'équations, de double identité et d'altérité, je m'y perds. À notre portée, à hauteur de femme et d'homme, Abdulrahman, Tamir Zadok, toi Sabil, moi et les autres, nous écrivons notre propre narration.
Je pense que la seule façon de lire l'histoire est de raconter des histoires personnelles, car chaque récit officiel est présenté par des intérêts politiques et un certain contexte national. Je crois qu'à travers l'intime, on peut aller plus loin que cela. Tu sais combien je trouve cette citation de Dore Gaze juste. Elle s'accorde parfaitement à ta phrase. Abdulrahman, Tamir Zadok, toi, Sabil, moi et les autres, nous écrivons notre propre narration. Nos histoires personnelles face aux histoires nationales, celles du Liban, d'Israël, de Palestine. Prenons même l'exemple de la France, celle dans laquelle j'ai grandi et je vis, n'a rien à voir avec celle de mon voisin Henri. Mon histoire de France ne m'a jamais été racontée. Je ne la retrouve ni dans les livres, ni dans les documentaires télévisés. Ma France écoutait Férouz, Ziad Rabbani, dînait à Noël du houmous et des huîtres, allait se balader sur les Champs-Élysées tous les samedis comme un touriste de la première heure. Tous les lundis, elle se réveillait avec l'espoir de retourner un jour vivre dans son pays. Paris ressemblait à Beyrouth. Je retrouve cette France dans mes archives familiales. Mon Liban aussi. Le français, on le parle à la maison comme le libanais. Les deux langues font partie de ma culture, mon histoire. Oui, la France était mandataire au Liban, mais lorsque j'entends mes parents parler français, je n'entends pas des victimes, mais des vainqueurs. Des gens qui ont eu la chance d'être entièrement bilingues, malgré un certain accent, de lire le monde dans les deux sens. Personne ne veut ressasser le passé, mais sans histoire commune, aucun avenir n'est imaginable. Pour la France et ses immigrés, Israël et ses Arabes, le monde arabe et ses Juifs. Tu as raison. Tout cela ne se résoudra qu'à travers nos récits personnels. Ils contraindront chacun de ces pays à réécrire leur histoire et inclure les nôtres, si différentes des leurs. Mais quelque chose me chiffonne dans ta phrase, Abdulrahman, Tamir Zadok, etc. Je n'arrive pas à mettre au même plan Abdulrahman, Tamir, toi et moi. Tamir, toi et moi avons un ou deux chez nous pour nous imaginer un ailleurs. Rappelle-toi de cette anecdote durant l'exposition Jeune Création. Tu défendais un de tes artistes israéliens, Ron Erli. Les organisateurs n'avaient pas voulu afficher sa nationalité de peur qu'elle pose problème. Lui s'en moquait, mais toi non. Tu m'avais écrit un mail où tu t'étais emporté contre eux. Je t'avais répondu « Tu as raison, insiste qu'il la mette. Il est essentiel que l'on entende des voix discordantes au discours officiel israélien. Netanyahou n'a pas le monopole du drapeau bleu et blanc étoilé, comme Hassan Nasrallah n'a pas celui du pays du cèdre. Accordons enfin à Abdulrahman un pays afin que sa voix résonne en cœur et en désaccord avec les nôtres, car dans ce monde, qu'on le veuille ou non, les drapeaux constituent notre première identité. Je suis franco-libanais, tu es franco-israélienne, et lui.
À force de penser aux Juifs, j'en oublie mes clés. Le peuple juif, les Juifs religieux, les Juifs laïcs, les Askénazes et les Séfarades. Y a-t-il un art juif? Comment devenir juif? Comment cesser d'être juif? Pourquoi suis-je juif? Le siècle juif, les Juifs dans la tourmente, le complot juif. Juif avec un J minuscule ou majuscule? Ah, nous ne sommes pas devenus amis pour rien, Sabil. Tu as compris au premier regard que je suis comme toi, arrangée dans la catégorie des obsessionnels. Toujours est-il que lundi dernier, à force de me perdre dans mes pensées, je me suis rendu compte à 2 heures du matin que je m'étais enfermée dehors et que la batterie de mon téléphone était déchargée. À Paris, j'aurais couru chez toi. À Tel Aviv, je sonne chez Julien. Il m'a ouvert la porte sans me poser la moindre question. Dans son appartement résonnait à plein régime un chef-d'œuvre de Mohamed Jamoussi. J'aime bien la nostalgie. La nostalgie, c'est écouter la version tunisienne d'une comptine pour enfants au milieu de la nuit en se croyant seul, jusqu'à ce qu'une askénage échevelée vienne vous interrompre. La nostalgie, c'est le mal du pays. Quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as montré tes photos de famille et je t'ai parlé de mes grands-parents. Julien est capable de me retracer l'histoire exhaustive des Juifs de Tunisie, dates et documents à l'appui. Au final, je ne sais pas ce que l'on cherche tous les trois. Je n'aime rien de plus que de manger un gefilte fish, objectivement infâme, et vous, une poutargue trop salée. Même à Paris, où nous avons grandi, j'erre inlassablement dans le marais de ma grand-mère, Julien dans le Belleville de René et Gabin, et toi chez Aldar. Le présent nous est apparemment inconfortable. La Tunisie, le Liban, la France, Israël et la Palestine, ces pays pourtant, nous ne les avons jamais connus tels que nous les imaginons. Nous fantasmons une époque que nous n'avons pas vécue et qui n'existe certainement que dans nos rêves. C'est le bon vieux temps, l'âge d'or où nous vivions ensemble, quoi que cela veuille dire. À force de penser à tout cela, tu vois, j'en oublie mes clés. Mon étourderie me permet cependant de me retrouver au clair de lune, chez toi, à écouter Férouz, un verre d'arak à la main, ou chez Julien, à découvrir Mohamed Jamoussi, avec le même verre à la main. D'aucuns pourraient décréter que nous nous sommes trompés d'époque. Je ne pense pas. Nous sommes nostalgiques du futur que nous construisons ensemble. Il me tarde qu'il advienne.
Sabil, tu penses qu'il va y avoir la guerre? Bien sûr que non, mon amour. La guerre, c'est en Syrie. Mon sein me gratte. Son sein la gratte et je n'arrête pas de me répéter Syrie, Iran, Israël dans ma tête. Sans interruption, je cherche une logique à Bachar al-Assad, Benjamin Netanyahou et les Iraniens en Syrie. À ces hommes confectionnés comme moi, comme toi, comme nous, et qui peuvent ordonner de tuer des centaines, des milliers de personnes, puis quand même dormir. Laura, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et pourtant, j'ai tué personne. Des Syriens sont ravis qu'Israël tire sur des Syriens. Des Iraniens volent plus haut que Dieu. Bachar et l'Assad jouent au ping-pong. Toi et moi, on se partage une assiette de houmous israélien, libanais ou capverdien, je ne sais plus. Netanyahou discute avec Trump d'annexer les colonies. Il grêle. Michel Aoun dit attention à Israël. Son sein la gratte. Les Kurdes syriens sont soutenus par Damas contre les raids turcs. Je déjeune chez le Turc. Les notifications de mon iPhone me rendent fou. Il ne manquerait plus qu'un message de ma mère. Tu passes plus chez nous. Et je pète un câble, mais pour de bon. Entre la vie et le virtuel, je ne m'en sors plus, Laura. Que faire? Tu penses qu'il va y avoir la guerre? Mais quelle guerre? Entre qui et qui? Quoi contre quand? Ou contre quoi? Quand et comment? Pourquoi et qui? Parce que la Palestine vivra et vaincra. Parce qu'Israël vivra et vaincra. Parce que la Syrie vivra et vaincra. Parce que l'Iran vivra et vaincra. Et que nous, on crèvera tous, un par un, les uns avant les autres. Netanyahou, Assad, Rouhani, toi, moi et son sein. Mais les idées, les nations, elles, ne crèveront pas. Je le vois déjà, mon gosse, foutu, littéralement, intrinsèquement, fondamentalement foutu, avec son père, qui a écrit Le Nez juif et passe son temps, sa vie, ses semaines sur la question palestinienne, arabo-israélienne, israélo-palestinienne. Avec son petit keffier, sa kippa, il criera « Allez, vive la paix entre les peuples !» Mais mon fils, mon amour, laisse tomber. Laisse tomber. Son sein la gratte. Les Pasdaran vont libérer la Palestine. Bachar el-Assad est le dernier rempart face à l'axe américano-sioniste et Netanyahou, le président de la seule démocratie du Moyen-Orient. Vu que le débat vole si haut, j'enfile ma robe. Et messieurs, vous savez quoi ?
Je vois des coïncidences tout le temps, partout. C'est fatigant. Samedi matin, j'ai lu La promesse de l'aube. J'aimerais bien écrire que j'ai relu La promesse de l'aube, mais je n'aime pas mentir. Romain Gary m'agace autant que je l'admire. Loin de moi l'idée de vouloir te flatter, Sabine, mais parfois je retrouve un peu de Gary dans ton caractère. Dans l'instinct vital, l'humour et les soudains désespoirs. Nous n'en avons jamais parlé ensemble. Peut-être suis-je à côté de la plaque. Toujours est-il que je suis là, je vole dans une carlingue déglinguée avec le fils de sa mère, quand mon téléphone m'interrompt. Premier F-16 abattu depuis 1982. Il va falloir songer à changer le nom de votre blog si cela continue. T'entends, Laura ? D'aucuns téléchargent les applications des grands quotidiens et reçoivent les informations en temps réel. Moi, je suis abonnée au fil d'actualité de mes parents. C'est une source infaillible. Pour une raison que j'ignore, ma mère sait qu'il neige avant Météo France et mon père prédit les mouvements tactiques avant que les états-majors n'y aient même songé. Encore un signal. Au moment même où Gary m'entraîne contre mon gré, j'étais bien là dans le marché couvert de Nice, dans la bataille d'Angleterre. Faut-il que les Israéliens envoient leurs avions en Syrie et que l'un d'entre eux soit touché ? J'ai alors pris une décision très saine, fruit d'un exercice que je pratique avec un certain succès depuis l'opération israélienne sur Gaza, plomb durci, tu te rappelles, en 2009. Je ne commence à me préoccuper que lorsque les sirènes retentissent dans mon quartier, annonçant un missile. La dernière fois, c'était à l'été 2014. Alors j'ai abandonné séance tenante, livre et téléphone, et je suis allée déjeuner à Jaffa avec mon amie Claire. Autant te dire que la conversation n'a porté sur aucun F-16, Iran, Syrie, ni guerre mondiale nucléaire incessante, mais sur Éric Rohmer. Stéphanie et son sein, Claire et son genou. Ma Claire, à moi, n'a jamais vu le genou de Claire et j'aimerais réparer cette injustice. Cela m'intéresse beaucoup plus que les déclarations de Trump, l'inculpation de Netanyahou et la neige en Île-de-France. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans mes DVD pour y dénicher le genou de Claire et le prêter à Claire, l'autre. Je suis tombée sur la femme de l'aviateur. Encore un signe ? J'adore Rohmer, parce que j'adore m'ennuyer. J'adore surtout Rohmer, parce qu'il me suffit d'appuyer sur Play et de voir apparaître à l'écran le logo des films du Losange, pour savoir que je vais troquer pour 1h40 environ la guerre et les F-16 pour un monde peuplé de scansions, de mesures et de diérèses.
J'en reviens aux coïncidences. Tu parles de la promesse de l'aube et j'y pense beaucoup ces jours-ci. Dans ce roman, Romain met le doigt sur le sujet qui blesse et le plus essentiel à mes yeux. La mère et son fils. Le dernier mois, j'ai regardé le documentaire « Au cœur de la nuit » sur Arte. Un épisode dans les rues de Tel Aviv sur la rencontre de la réalisatrice autrichienne Feo Aladag avec la chanteuse israélo-américaine Noah. Mettons de côté un instant la femme de gauche, Noah, qui prône la paix à tout va et se félicite 10 minutes après d'avoir un fils à l'armée. Pour en revenir à mon histoire, Noah se réjouit d'avoir un fils à l'armée et en plus, pilote de l'air, de l'envoyer à la guerre, tuer et peut-être mourir. Noah ne veut donc pas d'un fils, mais d'un héros. Elle le prend même pour Dieu, car qui à part Dieu décide de laisser vivre ou mourir. À l'âge de 16 ans, j'ai annoncé à ma mère vouloir être politicien. Elle m'a répondu « Tu seras président de la République ». Le jour d'après, j'espérais devenir réalisateur. Et j'ai eu droit à un « Tu gagneras le festival de Cannes ». Pendant longtemps, j'y ai cru à ces bêtises. Il n'y avait jamais d'entre-deux. Je devais être le meilleur, le plus fort. Je ne pouvais pas simplement être. Et elle ne s'est jamais arrêtée. À l'annonce de la date de sortie de mon premier roman, elle a réagi par un cri « Mon fils gagnera le prix Goncourt !» Et hier encore, elle s'est réjouie de m'imaginer en prison, au Liban. Elle se voyait déjà brandir ma photo avec des centaines de Libanais à hurler mon nom, elle, la mère du martyr, du héros. Au lieu de l'écouter et d'essayer de la rendre fière, je lui ai répondu, pour la première fois de ma vie. « Ferme-la, maman. Je ne gagnerai pas le Goncourt. Je me fous de ce prix et même de son existence. » Avec l'écriture, je me suis libéré. Elle me suffit à être un homme, un fils et probablement un père. Avec ou sans prix, reconnaissance ou fan club présidé par elle. Tu imagines un peu le fils de Noah lui dire après l'émission « Ferme-la, maman. Je ne serai jamais ce héros de guerre. Je veux juste ouvrir un snack de falafel. » Impensable, non? Trahir son pays est chose aisée, mais sa mère et les rêves qu'elle nous colle à la peau, c'est autre chose. Je crois que le jour où les mères arrêteront d'imaginer leurs fils comme des héros, à ce moment-là, tout ira mieux. Ils aspireront alors à être des hommes et non plus des dieux.
Aujourd'hui, c'est jour de vote en Israël pour désigner le futur Premier ministre, 9 avril 2019.
Tu m'as écrit à midi « Je crois que je vais voter Gantz ». Sur le coup, je n'ai pas compris de quoi tu me parlais. Le mot « Gantz » m'a rappelé un sponsor de Roland-Garros. Et puis, une vidéo m'est revenue à l'esprit, celle que tu m'as envoyée dans ton papier « Hussein » pour Israël, celle où Gantz, dans sa vidéo de campagne, décomptait fièrement les morts à Gaza.
Sabil, j'ai hésité avant de t'écrire. J'ai d'abord pensé aller bien lâchement voter bleu-blanc. Le parti de Benny Gantz et Yair Lapid est informé du résultat. Mi-queue entre les jambes, mi-haussement d'épaule, genre « Que veux-tu, c'est trop tard, mon bulletin est déjà dans l'urne ». Il est 15h46, les bureaux ferment à 20h et je ne suis pas plus avancée qu'à la fin de ma précédente chronique qui se concluait par la phrase « Je ne sais toujours pas pour qui voter ».
Laura, j'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas trop. Il y a toujours cette volonté au moment d'une élection de voter pour le moins pire. Je dois t'avouer que je n'y ai jamais adhéré. Mais je n'arrive pas à t'imaginer voter Gantz. J'ai toujours vu en toi et dans ta volonté de vivre en Israël un acte de résistance. Tu représentes cette voix israélienne qu'on entend trop peu et qui perdure, celle qui tient le fil d'un espoir encore possible entre vous et nous. Pourquoi ne plus voter Meretz maintenant ?
Sabil, je suis d'accord avec toi, c'est bien le problème. J'ai toujours voté à gauche. En 2015, j'ai voté Meretz, sans me poser la moindre question. Je ne sais pas si je suis en train de me faire avoir par la propagande de campagne, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant et que de ne pas faire barrage à Netanyahou me rendrait responsable de la chute d'un pays droit dans le déni de démocratie. Depuis des années, on a tendance à penser que la situation ne pourrait pas être pire. Mais le pire est à venir, avec la coalition d'extrême droite et de fanatiques religieux que Bibi propose. Ma question est, est-ce que je participe à une élection ou à un référendum anti-Netanyahou ?
Laura, élection ou référendum ? Je me permets de te donner mon avis sur cette question. Tu parles de déni de démocratie et dans mes yeux, Netanyahou et Gantz font partie de ce même mouvement de déni du droit des Palestiniens. Question qui reste centrale dans une élection en Israël. Et je crois surtout aux minorités qui résistent, même en silence ou presque. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans une démocratie. Si l'on a créé ce blog, c'est pour garder notre liberté de parole. Et si elle ne s'exprime plus dans nos votes ou non-votes, si Gantz déclare une guerre l'année prochaine à Gaza ou au Liban, comment te sentirais-tu si tu votes pour lui dans une heure ?
Sabil, la question « comment te sentirais-tu » résume tout. Disons que je vote pour la chef de file du Meretz, Tamar Zandberg, et que j'ai la conscience tranquille lors de la prochaine guerre, qui, à mon avis, arrivera avant l'année prochaine. C'est un peu facile. Est-ce que je ne dois pas tout faire pour éviter l'arrivée des kahanistes dans la coalition ou de celle de Smotrich comme ministre de l'Éducation ? Est-ce que je dois voter en fonction de mes sentiments ou est-ce que je dois participer à un effort collectif pour tenter voir ce que donnerait un changement, certes mineur ? Bon, il est 6h29 et je ne sais toujours pas. Le problème, c'est qu'on en est là. Bleu-Blanc n'a pas vraiment de programme, mais il a parlé d'une main tendue vers les Palestiniens. Est-ce que ce n'est pas mieux que le majeur dressé de Netanyahou qui a encore promis hier l'annexion des territoires ?
Laura, je pense qu'en Israël, la politique du moins pire n'est pas la même qu'en France. Il est question de guerre ou de non-guerre chez toi, et de considérer les Palestiniens comme des êtres à part entière et non pas comme des chiffres. Israël n'est pas encore la démocratie qu'elle revendique être, qu'elle rêve être. Désolé de décevoir tes amis. Mais voter pour Gantz ou Netanyahou, c'est voter pour un système qui, aujourd'hui, est un leurre. Je ne crois pas un seul instant à la main tendue de Gantz. Sois démocrate, Laura. Vote Meretz. Ne m'arrache pas le seul espoir que j'ai encore en ton pays.
Sabil, je dois aller voter. Donc, je te propose qu'on continue ce dialogue ce soir. Je t'enverrai une photo de mon bulletin. Laura a voté et vous connaissez, hélas, la suite des événements. Ce blog s'est arrêté en août 2020. J'espère que vous avez été intéressé par cet échange. La musique qui ponctue la lecture est celle d'Ibrahim Maalouf, libanais lui aussi, et qui s'intitule Beyrouth. Merci à Jean-Pierre pour sa participation, à Jean-Michel pour ses talents à la technique. Nous nous retrouverons le mois prochain et en attendant, n'oubliez pas, donnez-moi de vos nouvelles.
Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles.